Un moment pour la Terre avec Elfie Loubinou, chargée de projet au groupe Chiroptère de Provence, Elisa Cunier, donc chargée de projet et de communication à France Nature Environnement, la cohabitation avec les chauves-souris et la rénovation du petit patrimoine bâti des communes. Et voilà, un moment pour la Terre aujourd'hui, donc Lisa Cunier, accompagnée de...
Elfie Loubinou. Alors, donc moi, Lisa, je travaille pour France Nature Environnement 04, c'est la fédération départementale des associations de protection de la nature. Et nous travaillons sur tous les sujets en lien avec la nature, l'environnement. L'idée, c'est d'essayer de préserver, de protéger au mieux, tant qu'on peut. Et donc Elfie travaille pour...
Le groupe Chiroptère de Provence, donc Chiroptère ça veut dire chauve-souris, donc c'est l'association régionale de protection des chauves-souris. Du coup, on va parler des chauves-souris et de leurs caractéristiques, des éléments intéressants sur leur biologie, leur écologie, et sur un projet en particulier qu'on a mené, le GCP et donc le groupe Chiroptère de Provence et France Nature Environnement 04 ensemble, dans le secteur au niveau de la commune du Brusquet. Donc, je voulais commencer par quelques idées reçues sur les chauves-souris. Donc, les chauves-souris, on entend souvent qu'elles s'accrochent dans les cheveux des femmes la nuit, mais que des femmes, pas ceux des hommes.
Parce qu'ils sont chauves.
Ça doit être ça. Et en fait, ça c'était à l'époque quand on disait ça aux femmes, quand on voulait pas qu'elles sortent la nuit. Sauf que c'est complètement faux, parce que les chauves-souris ont une vision, une façon de voir leur environnement en 3D, que je développerai plus tard, qui leur permet de visualiser un cheveu, même plus fin qu'un cheveu. Donc impossible qu'elles se mettent dans vos cheveux, à moins que vous veniez frotter votre tête sur une chauve-souris. Il n'y a aucun risque.
Ça c'est un détail qui est important à connaître.
Oui, de manière générale, les chauves-souris ne vont pas au contact des humains. Elles vont à tout prix... vous évitez donc pas de risque qu'elles vous touchent ou voilà. Une deuxième idée, alors pourquoi elles ont mauvaise réputation en fait ? Ça serait lié à la religion catholique qui aurait diabolisé cette espèce en fait en représentant le diable avec des ailes de chauve-souris, pardon, et les anges avec des ailes d'oiseaux. Donc on a glorifié les oiseaux tandis qu'on a diabolisé littéralement les chauves-souris et c'est de là que viendrait leur mauvaise réputation. Alors, elles ne portent pas malheur. La preuve, c'est qu'il y a de nombreuses personnes qui vivent avec des chauves-souris dans leur grenier, par exemple, ou sous leurs tuiles. Et il n'y a pas de statistiques qui montrent qu'il leur arrive plus de malheur qu'aux autres. D'autres idées reçues liées aux chauves-souris, c'est qu'on appelle ça des chauves-souris. Donc, pourquoi ça, c'est une bonne question auquel je n'ai pas trop la réponse. Mais en tout cas, on associe les chauves-souris aux souris, et donc on leur associe des caractéristiques typiques des souris. Comme par exemple qu'elles pulluleraient, qu'elles feraient, comme les souris, plusieurs petits par an. C'est pas du tout le cas. Elles mettent bas un petit par an. Et il y en a 2/3 qui meurent la première année. Donc elles sont loin de pulluler, et leur population se maintient, voire décline.
Je pense, Elfie, aussi que quand on compare les chauves-souris aux souris, on a probablement peur que les chauves-souris soient également des nuisibles et qu'elles détruisent plein de choses dans nos maisons. Donc, je pense qu'on peut dire sans avoir peur que ça, c'est aussi une idée reçue qui est fausse.
Oui, tout à fait. Elles sont insectivores. Elles vivent elles peuvent vivre dans les greniers des maisons, par exemple, ou les vieux camanons, mais elles ne rongent rien. Contrairement aux souris, elles s'accrochent, soit elles se mettent dans des trous, soit elles s'accrochent au plafond, par exemple, mais elles ne dégradent rien. Leurs excréments, qu'on appelle guano, tombent par terre et ne transmettent aucune maladie. C'est comme de la poudre d'insectes. On peut le toucher avec ses doigts, ça fait des paillettes. Elles font caca des paillettes, les chauves-souris. Et ça peut servir d'engrais. C'est utilisé comme engrais et ça a été exploité même à l'époque sur des grosses colonies de chauves-souris. Et donc, si vous en avez chez vous, vous pouvez l'utiliser comme engrais dans votre jardin.
Il paraît que c'est vraiment très, très fertile.
Oui, exactement. Après, il faut une grosse colonie. 3 individus, ça va pas suffire. Une autre idée reçue, ça serait qu'elle colonise une maison, par exemple, et qu'elle y reste toute l'année, que ça soit plus possible de les, de les faire partir, enfin qu'elles ne partent pas d'elles-mêmes. Alors c'est tout le contraire, elles vivent complètement au rythme des saisons. Donc en été, elles ont des gîtes spéciaux où il fait bien chaud pour mettre bas et élever leurs petits. Ensuite, elles, en automne, elles vont dans des gîtes spéciaux qui sont des genres de boîtes de nuit ou de clubs libertins pour chauves-souris, où elles se retrouvent, parfois elles font beaucoup de trajets pour se retrouver là-bas et copuler. Le truc, c'est que après, il y a l'hiver et c'est pas du tout le moment pour elles d'élever leurs petits. Donc elles vont stocker la semence, les femelles vont stocker la semence du mâle dans leur corps, hiberner avec, donc se rendre à leur gîte d'hiver ou dans des grottes, par exemple, des endroits un peu humides et plutôt froids. Et à la sortie de l'hiver, une fois leur hibernation finie, elles vont déclencher l'ovulation au moment le plus propice avec la semence qu'elles ont stockée précédemment en automne. Ensuite, elles rejoignent leur gîte de transit printanier avant enfin de retrouver leur gîte de reproduction. Donc ce qu'on appelle gîte, c'est les endroits où elles se reposent la journée. Mais en fait, elles ne restent jamais plus d'une seule saison sur place.
C'est vraiment incroyable. En plus, cette reproduction décalée entre le moment où elles sont fertilisées et reçoivent la semence des mâles et le moment où réellement elles peuvent déclencher reproduction même, c'est une adaptation assez incroyable, mais justement aux conditions climatiques, puisque en fait, au printemps, le moment le plus propice pour la reproduction des chauves-souris et donc pour pouvoir vraiment tranquillement élever leurs petits, ça va être vraiment au printemps assez tôt. Quand on commence à avoir beaucoup d'insectes qui sortent, donc beaucoup d'insectes, ça veut dire beaucoup de nourriture, donc on peut facilement élever les petits. Mais sauf que si vraiment la reproduction même se passait également au printemps, ça aurait été beaucoup plus décalé. Et il n'aurait pas eu suffisamment de temps pour élever les petits lors de la période où il y a le plus d'insectes. D'où ce décalage avec la reproduction à l'automne et l'attente tout l'hiver. C'est vraiment incroyable.
C'est une belle adaptation, effectivement. Et je voulais vous dire aussi que contrairement aux souris, les chauves-souris ont une longévité extrêmement étonnante par rapport à leur taille. De manière générale, plus un animal est petit, un vertébré, moins il va vivre longtemps. Une souris, ça vit 2-3 ans, je crois, tandis qu'un éléphant, ça vit des dizaines d'années. Et en fait, les chauves-souris vivent... Il y a une espèce qui vit jusqu'à 43 ans. Donc c'est extrêmement étonnant. Et ce que les chercheurs ont découvert là-dessus, c'est que en fait, notre ADN, nous en tant qu'humains et les autres vertébrés, à chaque fois, quand on vieillit, un bout d'ADN se retire à chaque fois et c'est ce qui fait qu'on peut mourir de vieillesse. Et les chauves-souris, elles, en tout cas cette espèce qu'on appelle le grand murin, qui peut vivre jusqu'à 43 ans, il n'y a pas de dégradation de l'ADN. Donc on se demande si elle peut mourir de vieillesse en fait. Et ça leur permet d'être un peu, d'une certaine manière, insensibles à la mort par vieillissement.
Donc du coup, la mort, ça va plus se passer par rapport aux prédateurs ou par rapport aux menaces diverses et variées, c'est ça ?
Aux maladies et aussi au risque de se percer les ailes, en fait, parce que c'est une membrane très fine, en fait, entre les doigts. Qui composent leurs ailes. Et donc là, s'il y a un trou, s'il y a un trop gros trou, elles ne peuvent plus voler. Et donc là, elles meurent.
C'est super intéressant. En plus, c'est vrai que les chauves-souris, elles peuvent vivre très longtemps. Et si je ne me trompe pas, elles ont aussi une bonne mémoire.
Tout à fait. Elles ont une très bonne mémoire et elles sont fidèles à leur gîte. Elles ont tout un réseau de gîtes plus ou moins étendu, et donc il faut qu'elles s'en souviennent tous les ans. Et elles transmettent aussi ce savoir à leurs petits pour qu'ils continuent d'utiliser les gîtes.
Ah, les petits reviennent dans les mêmes gîtes où ils sont nés ?
Pas spécialement, mais ça dépend si ce sont des mâles ou des femelles.
Oui.
Mais en tout cas, ils ont cette connaissance-là, mais ils vont avoir tendance à prospecter aussi autour... à plein d'endroits pour trouver des nouveaux gîtes.
D'accord.
Donc, c'est une bonne transition pour vous parler du projet qui a été mené en collaboration avec le groupe Chiroptère de Provence et FNE04 sur la commune du Brusquet. Donc, l'espèce cible de ce projet, c'était le petit rhinolophe. Donc, c'est une espèce qui est rare à l'échelle de la région PACA, mais encore dont les populations sont encore bien présentes autour de Digne et plus particulièrement de la commune du Brusquet. Donc, sur ce projet, on avait connaissance de plusieurs grands gîtes à petits rhinolophes, dont un de plus de 150 individus. Et on a mené ce projet pour conserver les gîtes, pour restaurer ces gîtes-là qui avaient quelques problèmes et qui nécessitaient des aménagements, et aussi augmenter la connaissance sur tout le réseau de gîtes aux alentours. Parce qu'il faut savoir que le petit rhinolophe, c'est une espèce qui ne se déplace pas beaucoup, de l'ordre de quelques kilomètres, contrairement à des chauves-souris qui peuvent aller jusqu'en Scandinavie.
Ah oui, carrément.
Oui, elles peuvent mener de grandes migrations comme la noctule de Lesler, la pipistrelle de Natusius. Et donc voilà, à propos des petits rhinolophes, on a d'abord commencé par essayer d'avoir plus de connaissances sur ces gîtes. Donc on a mené ce qu'on appelle une télémétrie. Donc qu'est-ce que c'est une télémétrie ? On va d'abord faire une capture dans un gîte qu'on connaît. On va capturer des chauves-souris et leur mettre un petit émetteur radio sur le dos. On a la colle, la meilleure pour ça, c'est la colle à fossiles. On se demande pourquoi, mais en tout cas, ça marche très bien. En fait, et c'est un tout petit émetteur parce que c'est une petite bête, hein, le petit rhinolophe. Il pèse 5 grammes quand il est adulte. Donc, morceau de sucre, en fait.
Oui, un morceau de sucre. Aussi, pour comparaison, j'avais regardé, une feuille A4 pèse environ 4,5 grammes. Donc, voilà, c'est ça pèse ça.
Ouais. Et une fois qu'on les a capturés et qu'on leur a mis ce petit émetteur, on va les relâcher et elles vont aller dans d'autres gîtes. Nous, on va aller dormir après ça. Et la journée, on va prendre des antennes radio et essayer de capter l'émission qu'émet en fait l'antenne radio sur la... Enfin, l'émetteur radio sur la chauve-souris. Et on va essayer de se déplacer sur tout le territoire pour entendre cette émission et essayer de trouver où est la chauve-souris. Et une fois qu'on l'a trouvée, on découvre normalement un gîte. Ou alors, on découvre un émetteur qui est tombé par terre. Ça peut nous arriver aussi.
Je pense que c'est important à dire que la colle utilisée, elle se dégrade assez rapidement. Donc la chauve-souris.
Oui, j'allais vous demander comment elle se sort de cette colle. Oui, ça l'abîme pas.
Non, 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 ça part au bout de maximum 10 jours. Et plus souvent, on a vu que ça partait au bout de 3-4 jours. Donc ça ne la gêne pas très longtemps. Et après, l'émetteur tombe par terre.
Mais c'est vrai que ça reste quand même une méthode très intéressante, très importante, puisque si on n'a pas cette connaissance de la vie, du mode de vie des chauves-souris, dans ce cas du petit rhinolophe, si on ne sait pas où se trouvent ces gîtes, si on ne sait pas par quel chemin, entre guillemets, ils passent, ça va être beaucoup plus compliqué pour nous de faire des actions en faveur de lui, en faveur des autres espèces et en faveur de la préservation des chauves-souris tout court. Donc c'est vrai que cette connaissance de leur déplacement, de leur chemin préféré, de leur gîte, c'est le premier pas vers la préservation des chauves-souris, que ce soit le petit rhinolophe ou des autres espèces. Alors, je vous propose peut-être qu'on fasse la première pause musicale. C'est un petit peu en lien avec notre thème d'aujourd'hui. Donc, nous avons choisi la chanson qui parle justement des chauves-souris.
Hey. Une chauve-souris émet un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, par goût du désespoir, car tout glissait sur lui. Une chauve-souris émet un parapluie, émet un parapluie. Elle marchait au radar, le sommeil l'avait fui. Elle voulait se mettre à boire, se jeter au fond d'un puits. Une chauve-souris émet un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, découpé dans la nuit. Sans jamais s'émouvoir pour cette chauve-souris, le grand parapluie noir sortait de son étui. Il prenait sous son aile soin d'une pelle de nuit qui boulevard Saint-Marcel le nourrissait de pluie. Puis le grand accessoire se mit à voyager dans son bel habit noir, son habit noir de jet. Après les palabres pour faire un peu d'osier, un avaleur de sabre le mit dans son gosier, le mit dans son gosier. Un acrobate servit de balancier, un vendeur de cravate le prit comme associé. Puis il se déplia sur une permanente, puis il se déplia car il pleuvait sur Nantes, car il pleuvait sur Nantes. Une chauve-souris, demoiselle de la nuit, une chauve-souris émet un parapluie. Elle va chercher l'oubli au fond d'un vieux manoir où elle mourait d'ennui pendant que le parapluie menait au Père Lachaise une vie de bâton de chaise. Un jour de mauvais temps, un jour de mauvais temps, un brusque coup de vent lui mit les pieds devant. On le laissa pour mort dans quelques caniveaux. On le laissa pour mort avec le mec dans l'eau, avec le mec dans l'eau. En voyant son squelette qui faisait sa toilette parmi les détritus et les denrées foutues, c'est la chance qui me sourit, et voilà la chauve-souris. Je le croyais perdu, le manche est revenu, le manche est revenu. Riant comme une baleine, pleurant comme une madeleine, une chauve-souris émet un parapluie. Ils allèrent se dire oui dans le grenier de la mairie. Une chauve-souris émet un parapluie. Une chauve-souris émet un parapluie. Une chauve-souris émet un parapluie.
Voilà, la chauve-souris, bien d'actualité dans cette émission Un moment pour la Terre.
Et oui, et du coup, bah, nous en profitons aussi pour rappeler que nous sommes là puisque nous venons de terminer un grand projet mené par le groupe Chiroptère de Provence, par nous, France Nature Environnement 04. Et alors, il a été retenu et soutenu par le plan France Relance et par l'Office français de la biodiversité, donc qui l'ont trouvé justement intéressant et important et qui l'ont soutenu financièrement. C'est grâce à ça que nous avons pu le mettre en place. Et du coup, on était parti de cette idée que, bon, déjà, les chauves-souris, en France, toutes les espèces de chauves-souris sont protégées. Et ça a été mis en place parce que d'un côté, comme on a dit tout à l'heure, contrairement à toutes les idées reçues, ce ne sont pas du tout les nuisibles et ils nous rendent, elles font une partie très importante des écosystèmes, elles sont importantes pour le fonctionnement normal des écosystèmes, puisqu'en tant que mammifères insectivores, elles vont nous aider à réduire les populations d'insectes, dont aussi notamment les insectes ravageurs. Donc ce sont, elles peuvent nous aider même au niveau de l'agriculture, au niveau de la lutte contre les espèces ravageurs, mais aussi parce que les chauves-souris font face malheureusement à de nombreuses menaces. Donc ça peut être, avant tout, c'est la destruction ou une mauvaise rénovation de leur gîte, une rénovation inadaptée qui du coup va faire de façon à ce qu'elles n'arrivent plus à trouver des gîtes qui leur conviennent. Ça peut être la prédation par les chats, par exemple. Parce que, bon, on sait aujourd'hui, on parle beaucoup des chats qui peuvent représenter un danger pour les oiseaux, mais c'est également le cas avec les chauves-souris. Il y a aussi l'utilisation des pesticides, puisque les chauves-souris mangent les insectes. Donc, si les insectes sont impactés par les pesticides, ben, ça les impacte aussi, les chauves-souris, directement. La disparition des habitats, c'est aussi une des causes très importantes, que ce soit des habitats ou des lieux de chasse. En fait, c'est voilà, la destruction des corridors écologiques, des arbres, des haies, des bosquets. Si on n'a que la plaine, que en champ, en plus avec une seule culture, il n'y aura pas d'endroit pour les chauves-souris, mais il n'y aura pas non plus d'endroit pour qu'elles puissent chasser. Et donc Elfie, alors c'est que c'est plus toi qui as ces données. Alors les chauves-souris, à quel point sont-elles menacées en France ?
Eh bien, en 15 ans, entre 2006 et 2021, on a perdu 43% des effectifs, donc presque la moitié des chauves-souris. Enfin, leur population a diminué de moitié. C'est pour ça qu'il y a un peu urgence en ce moment, et c'est pour ça qu'on met en œuvre des projets de cette ampleur, d'assez gros projets, pour les préserver et préserver leur gîte, principalement. Je vais vous parler un peu plus des différentes facettes de notre projet. Alors, le projet s'intitule « Rénovation des gîtes à petits rhinolophes ». Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des travaux dans les deux gîtes qu'on connaissait. Un premier gîte qui abritait plus de environ 150 individus. Donc là, la problématique, c'était le dérangement par les gens qui visitent ce bâtiment. Donc, on a fermé à clé, on a mis des serrures dans ce bâtiment. Et aussi ce qu'on appelle des chiroptères. Chiroptères, comme chiroptère, mais avec un « i ». Ce sont des... Ça ressemble à des ouvertures d'environ 40 sur 20 cm. Et les petits rhinolophes, principalement, peuvent passer par ces ouvertures-là et c'est parfaitement adapté. Et il y a aussi un autre bâtiment qui a été rénové, c'est la chapelle Notre-Dame de Lozière. La chapelle Notre-Dame de Lozière, oui, à Aubrusquet, donc la chapelle orange qu'on voit sur la colline. C'était un gîte assez important d'une soixantaine d'individus il y a quelques années. Et là, on a vu une baisse drastique des effectifs, de l'ordre de 15-20 individus. Donc, on a souhaité rénover cette chapelle parce qu'elle menaçait, dans quelques années, de s'effondrer, au moins en partie. Donc, on a mobilisé ces financements pour la rénover. Et en fait, on a fait d'une pierre deux coups. À la fois, on rénove le patrimoine bâti et à la fois, on protège les chauves-souris parce que les chauves-souris ont besoin d'un toit. Enfin, cette espèce-là a besoin d'un toit. Donc voilà, on a installé des chiroptères aussi, on a rénové le plancher, on a fait on a isolé une partie d'une pièce pour que ça soit plus chaud et qu'elles aient un espace pour élever leurs petits. Et on a séparé les espaces pour que lorsque des humains rentrent dans la chapelle, il n'y ait aucun risque de croiser des chauves-souris, notamment pour les plus chiroptérophobes d'entre nous.
Et oui, c'est ça, les bases de la bonne cohabitation, c'est vraiment laisser des espaces pour les uns et pour les autres. Donc quand on parle de la cohabitation avec la faune sauvage, avec la nature, il ne s'agit pas forcément d'être directement en contact avec eux, il s'agit plus de séparer les zones, de laisser les zones et les espaces favorables à tout le monde, que chacun peut utiliser à sa façon, pour que chacun puisse, entre guillemets, vivre sa vie et avoir à sa portée tout ce dont il a besoin.
Les chauves-souris peuvent s'accommoder à la présence humaine si par exemple, vous avez une colonie dans votre cave et que vous y passez de temps en temps, en étant silencieux, elles ne vont pas vous voir comme une menace et elles peuvent s'y habituer. Après, l'idéal, c'est vrai que c'est de séparer les espaces complètement, mais ça peut être une possibilité aussi.
C'est vrai que c'était aussi ça, une partie très importante de notre projet, c'est la sensibilisation du public, du coup, très varié. On a ciblé le public différent, mais justement pour transmettre d'un côté cette connaissance des chauves-souris, pour expliquer que justement on n'a pas à avoir peur d'elles et qu'on peut très bien les protéger, mais aussi de montrer que chacun peut faire des choses très simples des fois et des fois pas si coûteuses que ça, pour préserver, pour favoriser la présence des chauves-souris. Et donc dans ce cadre, dans le cadre de cette sensibilisation, tout au long de ce projet, alors nous avons organisé plusieurs choses, plusieurs événements. Deux années d'affilée, on a fait des actions dans le cadre de la nuit de la chauve-souris, pour parler du petit rhinolof et de la pollution lumineuse et de la rénovation du patrimoine bâti. Ça, ça a été organisé, bien sûr, sur le territoire de la commune du Brusquet, qui était engagée dans ce projet dès le début. Nous avons aussi fait des interventions auprès des scolaires à l'école du Brusquet pour parler. Alors, nous, FNE 04, on a parlé de la pollution lumineuse, puisque c'est aussi quelque chose, c'est une des menaces qui pèse sur les chauves-souris. Mais en plus, c'est la pollution qui est très facile à enlever. Quand on dit la pollution lumineuse, c'est toute la lumière artificielle qu'on installe parce que bah, nous, les humains, des fois, on en a besoin. Ou des fois, même pas forcément besoin, mais qu'aujourd'hui, on a cette habitude. Donc, c'est quelque chose qui est assez facile à modifier, à enlever, à réduire. Et une fois qu'on a enlevé cette lumière artificielle qui est de trop, les animaux peuvent reprendre leur vie normale, surtout les animaux nocturnes. Donc, du coup, on a abordé cette question-là à l'école du Brusquet. Et Elfie, le groupe Chiroptère de Provence, ils y ont été justement pour parler plus en détail des chauves-souris et du petit rhinolof, pour que les élèves et les enfants du Brusquet soient aussi au courant de ce projet. Et ce qu'on a fait aussi, ce qui nous tenait beaucoup à cœur, c'est nous avons fait un guide à destination des élus et des techniciens sur la rénovation réussie de leur petit patrimoine bâti. Puisque on sait très bien que les élus n'ont pas la possibilité d'agir sur l'ensemble des bâtiments, surtout quand ce sont des bâtiments privés. Mais par contre, ce qu'ils peuvent faire et où ils peuvent agir, c'est sur les bâtiments de la commune. Donc, du coup, on a essayé de mettre ensemble, d'un côté, cette connaissance des chauves-souris, du petit rhinolof, les explications de comment les repérer. Donc, ça peut être des indices comme le guano, ou si les gens voient directement comment comprendre que c'est un petit rhinolof. Ça, par exemple, on le voit pendu par les pieds, oui, mais aussi enveloppé dans ses ailes. Donc, ça ressemble à un petit sac, une petite sacoche suspendue au plafond. Donc, c'est une des façons de les reconnaître, de savoir qu'on a des chauves-souris chez soi. Et ensuite, on a aussi beaucoup travaillé sur une clé décisionnelle pour les élus, pour comprendre ce qu'ils pouvaient faire et comment ils pouvaient le faire au cas où ils ont un bâtiment, soit un bâtiment qui est déjà occupé par des chauves-souris, ou un bâtiment qu'ils veulent rénover, mais pour l'instant, ils n'ont pas constaté de présence des chauves-souris. Et aussi, bien sûr, ce qu'on a essayé de dire, de raconter dans ce livret, c'est comment faire les travaux, comment faire attention aux chauves-souris, comment faire pour ne pas les déranger et vraiment pour bien les intégrer dans les travaux. Comme Elfie a dit, des fois, il suffit de peu de choses. Installer une petite ouverture, une chiroptière, j'en profite puisque du coup, j'ai appris le mot, installer une chiroptière dans son bâtiment, juste pour laisser cette possibilité aux chauves-souris d'y rentrer dans une partie du bâtiment, bien sûr pas dans le salon, laisser un petit espace où potentiellement les chauves-souris pourraient s'installer, ça ne coûte pas forcément très cher, c'est très simple et au moment de la rénovation, si on le fait, après déjà le bâtiment va être favorable aux chauves-souris. Donc du coup, on a fait ce guide et aussi ce qui était très important pour nous dans ce guide, c'est pas juste de dire regardez, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça, mais on sait très bien que ce qui freine souvent les communes et notamment les élus, c'est les financements. Des fois, même si les travaux ne demandent pas énormément d'investissement, il faut quand même les trouver. Ces investissements pour réaliser les travaux. Donc du coup, c'est ce qu'on a essayé d'intégrer aussi dans notre guide, c'est des idées, des pistes d'action, des choses que on peut faire. On peut faire des demandes, on peut déposer des projets, on peut labelliser par la suite le bâtiment pour mettre en avant tous ces efforts-là. Donc on a essayé de le recenser au maximum pour que les élus aient vraiment des pistes d'action pour déjà comment connaître et détecter la présence de chauves-souris chez soi, comment bien faire les travaux pour que les bâtiments soient favorables aux chauves-souris et surtout comment faire financer ces travaux. Alors, on... on abordera cette question dans la dernière partie. Et du coup, là, je vous propose qu'on fasse peut-être la deuxième pause musicale, donc qui parle de nos campagnes et de l'importance, un petit peu, on l'entend, hein, l'importance de la biodiversité dans nos campagnes.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe.
Et les mains vont faire la part des choses.
Il est grand temps
de faire une pause, invoquer cette vie morose
contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Pas de boulot,
pas de diplôme,
partout la même
odeur de zone. Plus rien n'agite tes neurones,
pas même le shit que tu mets dans tes cônes.
Va voir ailleurs,
rien ne te retient.
Va vite
faire quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas
ici, tu n'as rien.
Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi
près d'une rivière,
écoute le coulis de l'eau
sur la terre. Dis-toi qu'au bout,
et
il y a la mer,
et que ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme celui qui vient, que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le saignent? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde. De tout son orgueil,
sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. Et j'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots, car un lopin de terre, une tige de roseau
servira à la croissance de tes marmots, servira à la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey!
L'hymne de nos campagnes par trio.
Voilà. Et de l'importance de les préserver, nos campagnes.
Donc, Lisa vous parlait de ce fameux livret, de ce guide qu'on a rédigé ensemble. Vous pouvez le trouver sur le site de FNE04 pour l'avoir, le consulter en ligne. Et si vous voulez une version papier, vous pouvez vous rapprocher des communes du Brusquet, de Digne, les communes de la communauté de communes. Il faut savoir aussi qu'en tant qu'habitant, pas seulement en tant qu'élu, mais en tant qu'habitant, vous pouvez protéger les chauves-souris que vous avez chez vous ou alors même mettre en place des choses pour les accueillir, par exemple des nichoirs à chauves-souris. Donc, ce n'est pas le petit rhinolope que vous allez accueillir avec ce genre de nichoir, mais plutôt des pipistrelles. Donc, c'est les spets relativement communes qu'on trouve un peu partout, notamment sous les tuiles. Et les pipistrelles adorent les moustiques. Elles peuvent en manger plus de 3000 par nuit. Donc, c'est d'une pierre deux coups, encore une fois.
J'en veux à la maison, alors.
Eh ben, faut installer les nichoirs, les abris à pipistrelles.
Donc, sous forme de deux planches avec un petit espace où elles peuvent ramper et se mettre à l'intérieur. Et aussi, il y a un dispositif qui existe, ça s'appelle le label Refuge pour les chauves-souris. Donc ça, c'est tous les propriétaires qui peuvent devenir refuges pour les chauves-souris, un peu comme sur le modèle des refuges LPO, que ce soit des communes ou des propriétaires privés. Et donc ça salue l'engagement pour la préservation de ces chauves-souris, et ça nous permet aussi de nous savoir qu'il y a un gîte à chauves-souris à cet endroit-là.
Il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'on peut faire tout en chacun pour préserver, ou en tout cas essayer de préserver, de favoriser la présence des chauves-souris. Donc c'est vrai que déjà, voilà, quand on fait la rénovation de sa maison, comme on a dit, il y a pas mal d'astuces, pas mal de choses qu'on peut prendre en compte pour que notre bâtiment rénové soit aussi favorable aux chauves-souris. Donc pour ça, en effet, nous vous invitons à consulter le livret, alors qui est avant tout à destination des élus, des techniciens, mais où même les particuliers peuvent trouver pas mal d'informations intéressantes et utiles pour eux. Après, j'ai parlé tout à l'heure de la pollution lumineuse. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que aussi chacun peut faire devant chez soi, ou si vous avez un petit jardin ou un petit terrain. Si vous avez besoin de lumière, vous pouvez quand même l'équiper de détecteurs de mouvement pour que ça ne reste pas allumé toute la nuit. En fait, l'idée, c'est vraiment qu'on utilise les lumières quand on en a besoin, bien évidemment. Donc, on ne dit pas de tout éteindre et de passer toute la soirée dans le noir. Mais c'est de limiter la durée pendant laquelle la lumière est allumée. Peut-être si on installe des lampadaires ou des petites lumières chez soi, essayer de faire de façon à ce que la lumière ne soit pas orientée dans tous les sens, mais que ce soit plus orienté vers le chemin par lequel on passe. Donc il y a beaucoup d'astuces, donc tout ça, on en parle aussi dans le livret. Et après, il y a aussi des choses peut-être auxquelles on pense moins quand on parle des chauves-souris, même si je l'ai déjà abordé un tout petit peu au début. Par exemple, jardiner au naturel, ne pas utiliser de pesticides dans son jardin, tout ça, ça va aussi être une action en fait en faveur des chauves-souris, puisque comme on a dit, elles se nourrissent des insectes. Donc si les insectes qu'elles attrapent ont déjà été impactés par un pesticide quelconque, ça va avoir des répercussions sur la santé même de la chauve-souris, voire éventuellement entraîner sa mort. Il y a aussi, bien sûr, ça, ce sont des actions très concrètes sur le terrain qu'on peut mettre en place, mais il y a aussi des choses au niveau de l'action citoyenne qu'on peut mettre en place. C'est si on constate qu'il y a des endroits dans la commune qui sont moins adaptés aux chauves-souris, ou même, soyons honnêtes, à la biodiversité au sens beaucoup plus large, il ne faut vraiment pas hésiter à interpeller ces élus pour leur demander. Des fois, ça peut être demandé de mettre en place ou juste d'appliquer la législation qui existe déjà. Toujours par rapport à la pollution lumineuse, il s'agit de l'extinction des lumières. Il y a les lois qui précisent que dans la nuit, les vitrines, les éclairages de parking, les éclairages de monuments historiques. Il y a des précisions très concrètes par rapport à quand on devrait éteindre les lumières. Rien que appliquer ça, demander aux commerçants de sa commune, par exemple, de l'appliquer et de bien éteindre les vitrines, ça peut déjà être aussi un geste des élus. Et après, en tant que citoyen également, demander des travaux de rénovation ou de changement des lampadaires ou de replantation des arbres, parce qu'on a parlé tout à l'heure des corridors écologiques. C'est très important pour les chauves-souris. Il y en a beaucoup qui ne peuvent pas traverser des espaces ouverts ou des espaces trop éclairés. Donc, du coup, même très peu de choses suffisent. Avoir même des arbres ou des buissons en pot, rien que ça, ça peut déjà les aider. Donc, ouais, il y a des choses qui sont très simples à mettre en place et qui pourtant vont avoir déjà un impact important et un intérêt pour la préservation des chauves-souris. Et je voudrais aussi mentionner qu'en tant que citoyen, tout le monde peut également faire des signalements sur l'application Sentinelle de la Nature, où on peut signaler d'un côté les atteintes à l'environnement. Donc si vous voyez quelque chose, soit qui va contre la loi ou soit qui va vraiment pas en faveur de la biodiversité globalement ou des chauves-souris plus en particulier, vous pouvez faire ces signalements. Derrière, on a nos bénévoles qui traitent tous ces signalements et qui vont vous répondre et vous aider, vous accompagner dans les démarches à mettre en place pour justement interpeller ces élus pour essayer d'améliorer la situation. Mais on peut aussi faire des signalements, des initiatives positives pour l'environnement. Donc si vous voyez quelque chose qui a été bien fait, enfin, bien, entre guillemets, donc vous trouvez que vraiment ça favorise la présence de la biodiversité, ça, il ne faut pas hésiter à le signaler également sur l'application, parce que signaler des choses qui ne vont pas, c'est une chose, mais on a tous besoin d'exemples positifs, d'exemples qu'on peut répliquer, qu'on peut aussi reproduire ailleurs, et on peut dire, non mais regardez, c'est possible puisque ça existe déjà quelque part.
Je vais finir par quelques mots sur notre association. Nous, on est une équipe de salariés, mais aussi une grande équipe de bénévoles. Donc si cette émission vous a passionné par l'étude des chauves-souris, vous pouvez devenir bénévole et participer à des suivis de gîtes, parce qu'on en a on en connaît dans toute la région PACA et on les suit tous les ans si c'est possible. Et aussi, parfois, il y a des semaines, par exemple, de prospection, comme ça a été le cas pour ce projet. Il y a eu une télémétrie. J'y étais moi-même bénévole à cette époque. Donc, vous pouvez consulter notre site pour trouver les événements, dont les Nuits de la Chauve-souris aussi, si ça vous intéresse, qui sont à chaque fois gratuites, et aussi regarder les missions bénévoles qu'on propose.
Et aussi, bah, j'en profite pour dire que vous pouvez également venir nous voir. On participera au festival Inventaire qui, comme vous le savez, aura lieu du 3 au 8 octobre sur le territoire de Provence-Alpes-Agglomération. Alors nous, France Nature Environnement 04, on y participe avec des sujets plus larges sur les thématiques de cohabitation entre les activités humaines et entre la nature et la faune sauvage. Nous allons mettre l'exposition de France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur qui s'appelle Coexistence à la médiathèque de Digne sur toute la durée du festival Inventaire. Ensuite, nous allons aussi organiser des animations autour de l'exposition. Ce sera le vendredi 6 octobre après-midi à la médiathèque et le samedi 7 octobre le matin, toujours à la médiathèque. Nous allons également organiser la projection du film Durance 360 au cinématographe de Château-Arnoux le vendredi 6 octobre à 21h. Donc c'est un des derniers films web documentaire de FNE PACA qui parle de la Durance et qui laisse tous les acteurs locaux parler de la Durance, de cette rivière. Et évidemment, il y aura les débats après la projection parce que l'objectif, c'est aussi d'en discuter. Et nous allons également faire le samedi 7 octobre après-midi à 14h une sortie pour présenter l'outil Sentinelle de la Nature. Et justement pour présenter ce côté des signalements, des initiatives positives. Donc nous allons faire la sortie avec l'association de pêche, la PPMA, la Bléone. Et nous donnons rendez-vous au lac de Gobert, à leur cabane de pêche, pour ensuite aller découvrir un milieu aquatique et comment on peut signaler quelque chose de favorable qui peut être mis en place dans ce milieu.
Et donc de mon côté, au groupe Chiroptère de Provence, on sera là le jeudi 5 octobre à 16h pour une conférence à destination des élus sur la rénovation du petit patrimoine bâti en faveur des chauves-souris, donc lié au guide qu'on a rédigé. Ensuite, le vendredi 6 octobre, je tiendrai un stand dans le cadre du Festival Inventaire, donc vous pourrez venir me rencontrer pour que je vous parle de l'association, et si vous voulez devenir bénévole, ça sera l'occasion. Et enfin, le samedi 7 octobre, il y a une nuit de la chauve-souris à partir de 17h au cinématographe de Château-Arnoux. Donc vous pourrez profiter d'une première partie de conférence où je vous raconterai toutes les anecdotes sur les chauves-souris et mieux comprendre leur mode de vie et leurs mœurs. Ensuite, il y aura un film qui sera diffusé. Et enfin, on ira sur le terrain avec nos bat box, donc les boîtes à chauves-souris, pour essayer d'entendre les ultrasons et les voir voler.
Merci. Voilà. Merci Lisa Cunier et Elfie Loubinou donc, pour nous avoir bien informés sur les chauves-souris et leur utilité.
Merci beaucoup, Odile.
Merci
à toi.
À bientôt. Au revoir.
À bientôt.